Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, le Dieu de notre salut, merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous venons de te louer, nous venons de t'adorer. Nous venons aussi de te présenter de nos requêtes. Maintenant, nous sommes assis, nous voulons t'écouter. Que tu nous parles, Seigneur, parce que c'est toi qui dirige notre vie selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire deux versets. Un vers à Psaume 23 et un autre verset. Nous allons le lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1er, le 18e verset. Je commence la lecture au 23e psaume. Le 3e vers dit ceci: Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La première épître aux Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus entre triomphalement à Jérusalem, mais la finalité, c'est la mort, c'est la croix. Il y a eu des gens qui ont étalé leurs habits, qui ont étalé des rameaux. 4 jours après, ce sont ces mêmes personnes qui ont dit « crucifiez-les, crucifiez-les ». On va approfondir cela demain à partir de 15h30. Mais laissez-moi d'abord vous dire que ce jour, nous parlons de la fonction d'ambassadeur conquérant restauré. Fonction d'ambassadeur conquérant et restauré. Pour bien comprendre ce texte ou ce thème, nous allons parler de 3 choses. La première chose, nous allons définir la restauration. Nous allons définir être ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième chose, nous allons parler de comment obtenir la restauration. Et la troisième chose, avant la conclusion, nous allons donner des exemples de personnes qui ont été restaurées. Notre prédication de ce jour sera vraiment intertextuelle, c'est-à-dire nous allons parler de beaucoup de versets dans le développement. Ça peut ne pas être logique, ce que je veux dire jusqu'à la fin, mais je sais que le Saint-Esprit les rendra logique dans la vie de chacun de nous. Le premier point qui parle de la restauration, la définition de la restauration, être un ambassadeur, Vous allez vous souvenir qu'un jour nous avons dit que notre thème annuel à Gomaville se restaurer pour conquérir. Nous avons été restaurés afin que nous puissions conquérir. Que veut dire restauration? Le mot restauration vient du verbe restaurer. Restaurer signifie rétablir en bon état ou remettre dans l'état initial. Vous pouvez bien le comprendre lorsque souvent votre téléphone vient de planter, on peut vous dire de le restaurer. C'est-à-dire le remettre à l'état initial. Alors la restauration de l'âme veut dire quoi? La restauration de l'âme, c'est une action du Seigneur. Cette action vise la régénération de ce qui avait été détruit par le malin au travers du péché, qui est une désobéissance à la parole de Dieu. Vous avez été emporté par le mal, mais l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu qui vient vous remettre à l'état initial afin que vous puissiez encore revenir en lui, que votre relation puisse encore une fois se rétablir, la restauration de l'âme. Il restaure mon âme après que l'âme soit restaurée ou ait été restaurée, alors le Seigneur peut nous conduire dans les sentiers de la justice. Si vous lisez le psaume 107, le 17e vers jusqu'au 20e, la Bible dit « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et le délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la mort. » Lorsque nous allons loin de la volonté de Dieu, nous détruisons notre relation avec Dieu. La Bible dit que nous sommes des insensés. Et le Seigneur, plein de miséricorde, il est toujours prêt à nous restaurer. C'est pourquoi il dit, il restaure, le Seigneur a restauré ceux qui, à cause de leur péché, ils ont mis en péril leur propre vie. Heureusement pour eux, ils crient à Dieu et Dieu qui les a secourus. Le Seigneur est toujours prêt à nous secourir lorsque nous nous souvenons de là où nous sommes tombés pour que nous puissions nous repentir. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Nous avons le frère Joe qui avait prêché ici et il a parlé de l'ambassadeur. Il nous avait donné la définition. L'ambassadeur, comme nous le connaissons, c'est un représentant qui est envoyé par un État dans un autre État pour des arrangements politiques ou économiques, ou encore l'ambassadeur, c'est la personne qui fait partie d'une mission quelconque d'un État auprès d'un autre État. Ou encore, c'est une personne qu'on emploie à transmettre quelques messages. Donc, pour dire que l'ambassadeur, c'est en fait une personne qui travaille pour son pays dans un autre pays. De là où il est, dans le pays où il a été envoyé, il agit au nom de son pays, le pays qu'il a mandaté. Et donc, quand la Bible dit, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20, La Bible dit ceci. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Cela signifie quoi? Cela veut dire que Christ, il nous envoie afin que nous soyons ses porte-paroles auprès des gens de ce monde. Le royaume dans lequel il nous envoie. Ce monde, c'est un royaume dans lequel le Seigneur nous envoie. Afin que les habitants de ce monde puissent le reconnaître et croire en lui. À partir du jour où nous avons cru en Seigneur Jésus-Christ, notre nationalité a changé. Notre nationalité n'est plus du monde. Nous avons désormais une nationalité céleste. Le Seigneur maintenant nous envoie. Nous sortons de cette nationalité céleste et il nous envoie dans la nation du monde. Afin qu'il nous utilise et que nous puissions gagner aussi certains citoyens de ce monde pour qu'ils acquièrent aussi la nationalité céleste. Et ceci, c'est la raison de la voix de Jésus. Quand vous lisez Matthieu chapitre 21, le verset premier jusqu'au deuxième, c'est Jésus qui envoie deux disciples avant qu'ils n'entrent à Jérusalem. Jésus envoie deux disciples et il leur dit, « Allez auprès du village, vous allez trouver une ânesse et un âneau. Vous allez le détacher et vous allez me l'amener. » Souvenons-nous que ces deux disciples que Jésus envoie ne connaissent pas le propriétaire de cette ânesse et de cet anneau. Ils ne le connaissent pas. Mais Jésus les envoie. Et il leur dit, si quelqu'un vous demande qui vous envoie, vous allez dire, le Seigneur en a besoin. Pour dire quoi? Quand le Seigneur nous envoie, il n'a pas besoin de nous envoyer chez les nôtres, les gens que nous connaissons. Parce que nous avons ce pouvoir qu'il a mis en nous, il nous donne la force d'aller même chez les autres, ceux-là que nous considérons comme les autres, ceux-là que nous considérons qu'ils sont ailleurs. Peut-être ils n'ont même pas le droit aussi de manger sur la même table que nous. Mais le Seigneur dit, allez-y. Tous ces gens-là à qui Dieu nous envoie pour la parole de Dieu, nous ne les connaissons pas. C'est lui qui les connaît. Tu peux même être avec ta femme ou ton mari ou ton frère, ta sœur, tu ne les connais pas. Mais Dieu lui connaît. Il connaît les cœurs de celui qui est à tes côtés. Il sait. Et peut-être, il t'envoie là-bas. Ce n'est pas pour rien qu'il vous a fait rencontrer. Et donc, notre travail, c'est que lorsque nous avons été restaurés, nous devons travailler de manière que aussi le monde qui nous entoure soit aussi restauré. Avant le péché, nous étions en bonne relation avec Dieu. Pendant le péché et après le péché, il y a eu la séparation, la mort, l'état dans lequel peut-être tu es. Et après, le Christ est venu, c'est la restauration. Le Christ, il nous enlève de la cendre où nous sommes assis parce que le péché nous accable. Le péché nous lie. Alors le Christ dit, lève-toi et il te restaure. Toi qui as perdu ce pouvoir de devenir son enfant, le Seigneur Jésus-Christ te restaure. Comment on obtient maintenant cette restauration? C'est notre deuxième point. La restauration étant le passage de l'état de péché à l'état du salut, nous devons savoir que nous obtenons la restauration d'abord par le pardon de nos péchés par Jésus-Christ sur la croix. Il est toujours difficile de comprendre et de croire. C'est pourquoi le verset que nous avons lu dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 18, la Bible a dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais un pouvoir pour nous qui croyons en Christ. » Ne croyez-vous pas aussi que c'est réellement une folie? La croix, quelqu'un est mort sur la croix. Et il vous dit que c'est à cause de vous que je meurs sur la croix. On est libre de dire, c'est toi-même qui t'es donné. Nous, on va continuer à vivre tel que nous sommes. Aux yeux du monde, c'est vraiment une folie. Vous voyez la manière dont nous venons de danser ici. La louange et l'adoration. On peut facilement penser que il y a quelque chose qui ne va plus dans sa tête. Alors Paul dit, quand vous considérez quelqu'un qui danse comme ça, à cause de la croix de Christ, vous le considérez comme fou, vous périssez. Mais je ne sais pas pourquoi nous dansons souvent ici seulement. Si nous voyons quelqu'un en cours de route danser comme ça, est-ce que nous dirons qu'il est fou ou il est en train de se souvenir de la croix de Jésus? La croix qui nous a apporté le salut, c'est vraiment paradoxal, c'est un paradoxe, c'est quelque chose... Si nous utilisons notre logique humaine, notre intelligence humaine, nous avons mille raisons de rejeter cette croix. Mais Paul nous interpelle en disant que c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous, qui avons cru à l'œuvre de cette croix, nous savons que c'est une force. C'est un pouvoir que Dieu nous donne. Alors, la restauration, nous l'avons quand nous croyons en Christ et il change notre âme, il change notre esprit, il change notre relation avec lui. Mais souvenez-vous que Dieu ne change pas seulement les cœurs, il change aussi l'intelligence. C'est pourquoi à Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un avait chanté à Swahili, c'est un cantique dans le recueil Nyimbo za Mungu. Moyo uligeuzwa. Na vile maisha, saa Yesu alipoingia. Quand Jésus est entré en toi, il n'a pas changé seulement les cœurs. La vie aussi a changé. Ta manière de voir a changé. Donc Jésus, lorsque il s'assoit dans le cœur de quelqu'un, il se fait voir dans tes yeux. Il se fait voir dans ta bouche. Il se fait voir dans ta manière de sentir. Il se fait voir dans ta manière de la sensation corporelle. Sentir dans l'odorat. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut faire le péché parce qu'il a senti? À cause du nez. Vous avez senti quelque chose et ça vous amène vers là. Non, il faut que Jésus aussi s'assède à votre nez. Pour que le nez aussi soit sanctifié. L'oreille, ce que vous attendez, il faut que le Seigneur s'assède aussi dans l'oreille. Parce que ce que vous attendez peut vous pousser à faire le péché. Donc, lorsque Jésus s'assoit dans les cœurs, il ne faut pas qu'il reste dans les cœurs. Il faut qu'il s'extériorise par vos organes de sens. Revenons à l'intelligence. Jésus change ou nous appelle au renouvellement de l'intelligence pour que nous soyons en mesure de discerner. Nous revenons à l'intelligence pourquoi? Parce que l'intelligence symbolise l'homme intérieur, mais aussi c'est l'intelligence qui dirige le corps. Ce que vous faites, vous utilisez l'intelligence. Vous utilisez l'intelligence quand vous venez de la maison jusqu'ici. L'intelligence vous dit, si je m'assois ici, je ne saurais pas voir le prédicateur. Et l'intelligence vous amène à choisir la chaise. L'intelligence vous dirige. Pour dire quoi? Un croyant sans intelligence, c'est un danger dans l'église. Et un intelligent sans foi en Christ, c'est aussi un danger dans la société. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une restauration de notre pensée qui doit être contrôlée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit s'asseoir aussi dans notre intelligence afin que nous puissions combattre les mauvaises œuvres et les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est assis ici et il est en train de penser. Ah, est-ce que vous pouvez d'abord voir à quoi vous êtes en train de penser maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire après ce culte? Qu'est-ce que vous allez faire au cours de cette semaine? Qu'est-ce que vous allez dire à celui-ci ou à celui-là? Est-ce que c'est dirigé par le Saint-Esprit? C'est l'intelligence qui nous donne les stratégies. Même quand il s'agit de faire le bien, c'est l'intelligence qui nous donne les stratégies. Quand il s'agit de faire le mal, c'est l'intelligence qui nous donne les stratégies. Savez-vous que c'est l'intelligence qui vous donne les stratégies de draguer une femme d'autrui? L'intelligence. Parce que vous l'avez vu par vos yeux dans lesquels Jésus ne s'assoit pas. Et vous voyez, en voyant, l'intelligence s'active et vous donne des stratégies. Comment on va faire? Elle vous donne les paroles. Elle vous donne comment vous pouvez faire pour qu'on ne vous attrape pas. Elle vous donne comment ou combien vous pouvez même proposer l'intelligence. Elle vous donne où on peut aller le faire. Ça, c'est l'intelligence. C'est pourquoi Paul dit que nous devons renouveler notre intelligence. Notre intelligence doit être remplie du Saint-Esprit. De manière que toutes les stratégies que l'intelligence nous donne soient éclairées par la parole de Dieu. C'est pourquoi, en Philippiens 2, 5, la Bible dit, c'est le même Paul, l'enfant de Dieu doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et à Psaume 37, 4, il dit que si quelqu'un est restauré, il fera de l'Éternel ses délices. Et il va obtenir du Seigneur ce que son cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, que l'Éternel soit notre sujet de joie. C'est pourquoi en Philippiens 4, 4, la Bible dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Aswahili, ça dit ceci. Furahini katika Bwana siku zote. Tena ninasema furahini. Bien-aimé dans le Seigneur, pour faire de l'Éternel nos délices, réjouissons-nous dans le Seigneur. La parole de Dieu ne dit pas furahini katika jipe siku zote. Furahini katika pombe siku zote. Non, non. Furahini katika Bwana. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont déjà pris le péché comme la réjouissance. La réjouissance. Le Seigneur, quand il entre à Jérusalem, il veut restaurer. Malheureusement, ceux-là qu'il cherche à restaurer, ils ont dit, crucifiez-les, crucifiez-les. Et comme il est plein de bonté, ceux-là qui ont dit crucifiez-les, ce sont eux. Pour eux, il est mort sur la croix. Et il a dit, vous êtes pardonnés. Donc, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, voir qu'est-ce que notre intelligence dit. Est-ce que notre intelligence nous dit de nous limiter à dire qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche des rameaux? Quelle est cette nouveauté que Jésus te dit aujourd'hui pour que ton intelligence soit restaurée? Et quand nous nous réjouissons dans le Seigneur, Philippiens a dit que le Seigneur approche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre tout en sachant que le Seigneur approche. Savez-vous que quand Dieu a dit en Genèse, il n'avait pas dit que tu es sorti de la poussière et tu vas rentrer dans la poussière en venant de soins intensifs. Il n'a pas dit ça. Tu es venu de la poussière, tu rentreras dans la poussière. Le Seigneur sait que tu peux rentrer dans la poussière sans être malade. Tu peux rentrer dans la poussière, tu es assis là, tu peux tomber, tu rentres dans la poussière. Les gens vont dire qu'il y a des sorciers, il y a quoi. Oui, mais le Seigneur là où il est, il sait que il rentre dans la poussière. Pour dire quoi? Le Seigneur est proche à chaque instant de notre vie. C'est pourquoi nous devons renouveler notre intelligence. Pour que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Lorsque nous nous réjouissons dans le Seigneur, nous obtenons ce que nos cœurs désirent. C'est le psaume 37:4 qui a dit. Donc, le Seigneur, lui, quand il nous restaure, il ne restaure pas seulement l'âme, il restaure aussi notre manière de vivre, notre état. C'est pourquoi, à 3 Jean, le verset 2, il dit, pour la bonne santé physique, il dit, je souhaite que vous soyez à bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Une parenthèse. Est-ce que si je vous souhaite aujourd'hui là, je vous souhaite, je vous dis, je prie pour toi, pour que l'état de ta santé prospère, comme prospère aussi l'état de ton âme. Ne serait-ce pas une injure par rapport à votre vie? Ça, c'est 3 Jean 2. Je souhaite que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Il faut que la santé que nous avons dans notre corps physique reflète la santé que nous avons dans notre âme. Est-ce que ton âme que tu as là n'est pas malade? Est-ce que l'âme là n'a pas de virus de l'ivrognerie? Est-ce que l'âme là n'a pas de virus de faire boire? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne boivent pas l'alcool, mais ils peuvent faire boire les autres? Malheur à celui qui fait boire les autres. Malheur à celui qui fait boire les autres. Est-ce que ça, ce n'est pas un virus qui est dans votre âme? Est-ce que dans votre âme, il n'y a pas de virus du mensonge? Est-ce qu'il n'y a pas de virus de la médisance? N'y a-t-il pas de virus de l'hypocrisie? N'y a-t-il pas de virus de l'impudicité, la débauche, l'adultère? N'y a-t-il pas de virus d'agir contre la promotion des autres? N'y a-t-il pas de virus de poison? N'y a-t-il pas de virus? On peut allonger la liste. Alors, si je te dis, avec tous ces virus dans ton âme, et je te dis, je prie pour toi que ta santé prospère comme prospère l'état de ton âme. Combien de personnes seront kwashiorkorées ici? Combien de personnes auront le marasme? Le marasme, c'est un amaigrissement exagéré. Nous pouvons être à bonne santé physiquement, mais peut-être nos âmes ne sont pas à bonne santé. Et la Bible dit que nous devons avoir peur de celui qui peut détruire l'âme, pas celui qui peut détruire le corps. Parce que ce corps, Dieu dit, le corps est tiré de la poussière et il rentrera à la poussière. Ce corps rentrera à la poussière. Nous faisons beaucoup pour notre corps, mais nous ne faisons pas beaucoup pour notre âme. Nous pouvons manger 3 fois le jour, mais pour nourrir notre âme par la parole de Dieu, on nous force de nourrir notre âme. Alors que notre âme, c'est cette partie de la personne qui vivra éternellement. Comment tu prends soin de ton âme pour que cette âme vive éternellement? Lorsque nous sommes restaurés, le Seigneur dit qu'il va nous rendre jeunes. Nous allons demeurer jeunes lorsque nous sommes restaurés. Ça, c'est le psaume 103, le 5e vers, qui dit, c'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle. Si tu as 80 ans, tu es restauré. Aux yeux de Dieu, tu es jeune. Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as une âme pleine de virus que je viens de citer ici. Aux yeux de Dieu, tu es un vieillard de 1000 ans. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, il nous donne la force comme un aigle à chaque instant. La Bible dit, Philippiens 4, 19, que lorsque nous sommes restaurés, le Seigneur pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu peux être riche sans être béni. Mais tu peux être béni sans être riche. Lorsque nous avons la richesse avec Christ, nous sommes bénis. Tu as la richesse sans Christ, tu n'es pas béni et tu es malheureux. Et il ne faut pas penser que lorsque quelqu'un passe avec son amère, lorsque quelqu'un, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la voiture qui est la plus chère, je ne sais pas, quelqu'un peut passer avec cette voiture la plus chère et vous dites qu'il est béni. Non, non, il faut dire qu'il est riche. Il peut être riche, mais il n'est pas béni. S'il n'a pas Christ, il n'est pas béni. Parce que c'est Christ qui est la source de notre bénédiction. Et celui qui donne aussi les biens, mais ce bien-là doivent être à bonne relation avec ces dieux-là. Une richesse sans Christ, c'est la mort. Lorsque nous sommes restaurés, le proverbe 30, le 23e vers, nous dit, c'est par la grâce du Seigneur qu'une femme dédaignée se marie. Donc lorsque nous sommes restaurés par le Seigneur, il nous donne aussi le mariage. Hein? Quand Proverbe 30, 23 dit, la femme dédaignée se marie, ça ne signifie pas que toutes les femmes qui sont mariées ont été d'abord dédaignées pour qu'elles trouvent des maris. Ici, nous cherchons la grâce. La grâce de Dieu qui coule pour tout le monde. Et même là où tu ne t'y attendais pas, tu t'y attends le moins, mais tu vois la grâce de Dieu couler. Les femmes qui sont dans leur mariage, les hommes qui sont dans leur mariage, vous devez savoir que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui vous a amené jusque-là. C'est la grâce de Dieu qui vous a fait rencontrer par cette personne-là avec qui vous êtes. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te souvenir quel habit tu étais habillé ce jour-là quand tu avais dit la première fois « Je t'aime ». Comment tu étais habillé? Mais elle avait dit oui malgré. Il avait dit oui malgré. C'est par la grâce. Et vous avez conjugué la vie ensemble jusqu'à maintenant. Mouna Thérèse, c'est par la grâce. Cette même grâce va aussi couler dans la vie de tous les célibataires de cette église. Ainsi soit-il. C'est la grâce de Dieu qui nous permet aussi d'avoir des enfants. Lorsque nous sommes restaurés, le Seigneur est aussi capable de nous restaurer dans ce chapitre-là d'avoir des enfants. Et Samuel 2:5 qui dit, « Même la stérile peut encore enfanter cette fois. » Tous les enfants que vous avez, quels sont les efforts que vous avez fournis pour que vous puissiez les avoir? Vous n'avez fait aucun effort. Peut-être vous avez payé de l'argent pour avoir cet enfant, beaucoup d'argent. Mais je voudrais vous dire qu'il y a ceux qui ont payé plus d'argent que vous et jusqu'à maintenant, ils n'en ont pas. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui coule. Et c'est pourquoi nous voulons aussi dire que cette grâce aussi coule dans toutes les familles qui jusque-là n'ont pas encore d'enfants. Ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, dans votre marche avec Dieu, c'est possible que peut-être vous êtes allé loin de la volonté de Dieu. Le Seigneur peut encore vous restaurer. Le Seigneur est encore capable de vous restaurer. Et pour que vous puissiez revenir à votre vie normale de la vie. Parce que le fait que vous ne vivez plus normalement avec Christ, c'est la mort. C'est la mort qui est là. C'est pourquoi nous allons parler de trois personnes qui ont marché. Bon, il y a celui qui n'a pas marché avec Dieu. Mais qu'ils ont reconnu que si nous crions à l'Éternel, il est capable de nous restaurer. Il est capable de nous redonner la vie. Tu seras aussi en train de penser où tu es tombé pour que tu saches que le Seigneur peut encore me restaurer. La première personne, c'est David. David a eu la honte. Il a perdu la royauté. Nous connaissons que la Bible dit que David, c'est le roi selon le cœur de Dieu. Malheureusement, le roi selon le cœur de Dieu, il a pris aussi la femme d'autrui avec qui il a eu un enfant qui est mort après, comme punition. Peut-être que quelqu'un ne le sait pas. Je voudrais dire aussi que, c'est entre parenthèses, cette femme-là que David avait pris, c'est elle qui avait mis au monde Salomon. Salomon que encore Dieu avait choisi. Bon, le choix de Dieu... Ah, le choix de Dieu est grave. Si on peut même dire catastrophique peut-être. Oui, Dieu quand il va vous bénir, il ne voit même pas votre lieu de provenance. Et il ne voit pas le lieu de provenance. À cause de ses péchés, Dieu avait dit que l'épée ne sortira jamais de ta famille. Malheureusement, c'est arrivé. Absalom, le fils de David, est monté contre lui et il l'a chassé du trône. Ton fils qui te chasse de ton trône. Voici ce qui a restauré David. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. À 2 Samuel 15, 25. Et finalement, il est redevenu roi. Si vous lisez 2 Samuel 19, 8. Après la honte, le Seigneur est capable de vous couvrir encore de la gloire. Oui, David, il a eu cette honte-là. La deuxième personne, c'est Job. Job, c'était un homme intègre. La Bible dit qu'il avait 7 fils et 3 filles, 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Tout ça, il a perdu dans une journée. De surcroît, il a été malade. À plus de cela, sa femme s'est fatiguée de vivre avec lui. Elle a dit, est-ce que tu ne peux pas injurier le Seigneur pour qu'il te maudisse et que tu meurs? C'était devenu une prière. Donc, mieux vaut que je reste veuve que de vivre avec un tel homme. C'est une bassesse. Une bassesse. Mais le Seigneur a dit, le Seigneur est demeuré ferme en sa décision. À la fin, parce que Job, la Bible dit, il n'a point péché par ses lèvres, l'Éternel l'a rétabli dans son premier état. Et le Seigneur lui a rétabli le double de ce qu'il avait. Le Seigneur avait doublé les biens, il n'avait pas doublé les enfants. Il avait donné seulement les vrais nombres, parce que 10 enfants, 3 filles et 7 garçons, tous sont morts. Mais après, quand il a doublé les autres biens, il a encore donné 7 fils et 3 filles. Mais la Bible dit, peut-être il l'a doublé par la beauté. La Bible dit que dans tous les pays, il n'y avait pas de filles aussi belles que les filles de Job. C'est aussi une gloire peut-être. Si tu as des enfants qui sont des filles belles, les hommes tournent autour. Elles ne peuvent pas manquer des hommes qui vont les marier. Elles seront prises par des gros... de gros poissons. C'était une bénédiction que le Seigneur a donnée. Pour dire quoi? Malgré l'état dans lequel vous êtes, que ce soit l'état de péché, aussi longtemps que vous êtes encore à vie, le Seigneur est capable de vous restaurer. Le troisième monsieur s'appelle Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, lui, ce n'est pas un juif. Ce n'est pas quelqu'un qui craint l'Éternel. C'était un roi de Babylone. Mais il a été chassé du milieu des hommes. Et pendant 7 ans, il a mangé de l'herbe comme les chèvres. Il a fait 7 ans de démence, presque une folie. Parce que dans son cœur, il s'était élevé dans son cœur. Mais à un moment donné, la raison lui est revenue et il fut rétabli roi. Si vous lisez Daniel 4, 34 à 37, c'est parce qu'il a reconnu la souveraineté du Dieu très haut. Lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, c'est possible. Et Dieu s'engage encore à nous restaurer. Il s'engage à nous restaurer. Quel que soit votre problème, le Seigneur éternel a le pouvoir de vous restaurer parce que sa parole demeure puissante. Même quand tu as succombé dans les péchés, tu te sens toujours coupable chaque jour, matin et soir. Tu te sens toujours coupable. le Seigneur est encore capable de te restaurer. Balayons donc l'inquiétude, la peur de notre cœur. Et ayons davantage confiance dans le Seigneur et il va nous restaurer pour qu'il nous utilise à restaurer d'autres personnes. Le Seigneur nous restaure pour qu'il nous utilise à restaurer d'autres personnes. Si Jésus a utilisé l'âne, l'ânesse et l'anon pour entrer à Jérusalem, pour que les gens de Jérusalem puissent le voir et le constater, quel est aussi l'âne ou l'ânesse ou l'anon qui est dans ton cœur, qui est dans ta vie, que Jésus peut utiliser pour que celui qui est à ton côté puisse être restauré? Est-ce que c'est ta bouche que Jésus peut utiliser pour que celui qui est à côté soit restauré? Est-ce que ce sont tes oreilles? Est-ce que ce sont tes yeux? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est quoi? Nous devons avoir l'occasion d'évaluer tout ça pour voir, Dieu m'a restauré. Qu'est-ce que aussi j'ai fait pour que les autres soient restaurés? Ou bien, je me reconnais que je n'ai pas fait la volonté de Dieu, mais le Seigneur est encore capable de me restaurer. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. En toi, Jésus, pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter à prier le Seigneur. Quel est l'état de ton âme? Visiblement, tu as bonne santé physique. Si nous comparons ta santé physique à la santé de ton âme, quel sera le résultat? Souviens-toi de ce que tu es, de ce que tu fais. Quand nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce qui vient encore une fois de s'ajouter dans ta vie pour que tu le célèbres d'une manière différente? Prie que le Seigneur renouvelle ton intelligence afin qu'elle ne soit pas encombrée par de mauvaises pensées dirigées par le malin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes enfants, merci pour la vie que tu nous donnes. Cette semaine, nous nous souvenons de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que tu as envoyé sur cette terre afin qu'il nous sauve. Nous étions errants comme des brebis, mais toi Seigneur, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon frère et ma sœur? Restaure nos âmes Seigneur. Bien-aimé, si tu auras besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à voir les serviteurs de Dieu qui sont toujours disposés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.